l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Ce mois-ci, nous nous rendons en Iran, où une insurrection majeure a bousculé le régime de la République islamique. Mais tout d'abord, nous souhaitons relayer l'appel de multiples organisations à travers le monde à soutenir le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, actuellement attaqué par les forces armées syriennes et l'État turc. Les Kurdes, plus grande nation sans état souverain au monde, avec une population estimée entre 35 et 40 millions d'individus, sont séparés entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Le Rojava, c'est donc la partie du Kurdistan qui se trouve en Syrie. Et depuis 2012, il est le siège d'une expérimentation politique unique au monde, réunissant démocratie participative, écologie et féminisme. Comme le dit une tribune publiée dans Le Monde le 26 janvier, ce qui se joue aujourd'hui en Syrie n'est pas un affrontement communautaire ou religieux, mais l'opposition entre deux visions et projets politiques pour l'avenir de la Syrie. En 2011, la Syrie se soulève contre le dictateur Bachar al-Assad. Le nord et l'est du pays sont rapidement libérés, mais Assad, au prix d'un bain de sang, se maintient au pouvoir dans le reste du pays jusqu'en décembre 2024. Dans l'intervalle, les comités d'organisation locale kurdes deviennent organes de gouvernance locale. L'administration autonome, démocratique et multiethnique du nord et de l'est de la Syrie est créée. L'idée est de réconcilier les différents peuples de la région pour faire société ensemble. L'espoir à l'échelle de la Syrie est toujours de faire tomber Assad et de créer un État fédéral où chaque minorité serait respectée. Durant 10 ans, le confédéralisme démocratique est développé à travers des communes composées chacune de comités démocratiques où sont débattus les sujets de société et de la vie quotidienne. Ce sont aussi ces territoires qui vont combattre et vaincre l'État islamique grâce aux forces démocratiques syriennes et au YPG, dont certaines sections sont connues pour être exclusivement composées de femmes. Or, durant 10 ans, l'État turc mène une guerre contre l'expérimentation du Rojava. Bombardements, attaques de drones, invasions terrestres avec l'installation d'une zone tampon à la frontière, provoquant l'occupation de la ville d'Afrin et des déplacements de population, n'auront cependant pas vaincu le Rojava. Finalement, en décembre 2024, ce sont les HTS, armés par la Turquie, qui renversent Bachar al-Assad. Leur chef, Ahmed al-Shara, ancien cadre d'Al-Qaïda, devient le nouveau président syrien. Il promet la paix et l'intégration de tous les peuples de Syrie dans un nouvel État, mais multiplie les attaques contre les Alaouites, contre les Druzes et désormais contre les Kurdes. Aujourd'hui, le Rojava est donc attaqué. Le 19 janvier, le commandant des forces démocratiques syriennes, lié à l'administration autonome, a lancé un appel à la mobilisation internationale avec ces mots. « Nous appelons tous les jeunes, toutes les femmes et tous les hommes du Rojava, du Kurdistan du Nord, du Sud et de l'Est, ainsi que celles et ceux d'Europe, à s'unir, à abattre les frontières des occupants et à rejoindre la résistance. Aujourd'hui est le jour de la dignité. Aujourd'hui est le jour de la responsabilité historique. » Une fois de plus, nous montrons que la volonté des peuples est plus forte que toute attaque ou occupation. Du Kurdistan irakien, des centaines de personnes traversent la frontière pour venir en aide au Rojava. Partout dans le monde, notamment en Europe, des manifestations de solidarité internationaliste ont lieu. Une caravane des peuples relie actuellement plusieurs capitales européennes pour rejoindre le Rojava et apporter l'aide humanitaire et humaine réclamée. Plus d'infos en français sur Rise Up for Rojava ou sur Women Defend Rojava. Les Kurdes sont également présents en Iran. Or, sous la République islamique dirigée par le guide suprême Ali Khamenei, c'est toute la population qui est coincée dans un régime sanguinaire. Ce régime de terreur instauré en 1979, imposé après des assassinats politiques et par un référendum que l'on soupçonne entaché de fraude massive, pourrait-il enfin tomber ? Pas moins de 5 soulèvements sont survenus en Iran ces 8 dernières années. Le dernier, on s'en souvient, avait jeté dans la rue la jeunesse, en particulier les femmes, après qu'une jeune femme kurde, Jina Amini, ait été assassinée pour un voile mal ajusté par les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Lors de son enterrement, la révolte avait grondé. Le lien entre le Kurdistan et les femmes de Téhéran s'était fait rapidement. Un mouvement pour la liberté des femmes avait éclaté et fait la renommée du slogan « Jin Jiyan Azadi »« Femme, vie, liberté » en kurde. Depuis, la colère contre le régime ne fait que s'amplifier. Et même si chaque fois le point de rupture semble se rapprocher, les institutions tiennent, maintenues par une structure étatique très particulière qui repose sur la domination religieuse, politique, économique et militaire. Aujourd'hui, le pays est enfoncé dans une crise majeure. La valeur du rial a été divisée par 20 000. Les villes connaissent des pénuries d'eau, d'électricité et de médicaments. Le marché de l'import-export est confisqué par les élites et le commerce intérieur est profondément affecté. Cette fois, la révolte a commencé dans le grand bazar de Téhéran. Alors que la monnaie iranienne s'effondre et que les prix s'envolent, les bazars de l'électronique et de la téléphonie mobile se vident. Les marchands ferment boutiques, étouffés par l'inflation, et le 28 décembre, ils décident de sortir dans la rue pour protester contre la situation économique qui risque de les mener à la ruine. Il est important de noter que cette classe de petits commerçants ne se mobilise que très rarement. Traditionnellement conservateurs, ils entretiennent des liens de loyauté structurels avec l'État. C'est ce qui a valu à la révolte d'être dans un premier temps déconsidérée par certains comme étant petite bourgeoise ou de droite, à cause de slogans s'éloignant des revendications purement de gauche. En réalité, l'étincelle du bazar de Téhéran, aussi légitime que toute révolte, va rallumer des braises plus anciennes et plus vastes. La grogne des petits commerçants indique surtout que l'État iranien faillit à l'une de ses missions premières, faire tenir l'économie, et que désormais tout le monde s'en rend compte. Immédiatement après cette première journée, le directeur de la banque centrale présente sa démission et le président dit comprendre les revendications légitimes des commerçants. Le lendemain, la colère se mue en marche dans les avenues de la capitale. La foule gonfle. Azadi est l'un des premiers slogans entonnés. Puis, mort au dictateur. Le ton est immédiatement donné. C'est aussi une contestation qui se transmet immédiatement aux provinces, de Zanjan et Hamedan à l'ouest jusqu'à Kemch, l'île à l'extrême sud du pays. Puis le 30 décembre, toutes les grandes villes sont debout, Mashhad, Karach, Yazd, Kermanshah, Shiraz ou Ispahan. La classe moyenne inférieure qui subit de plein fouet la crise économique est la première à sortir, très vite suivie par le milieu étudiant. Puis dès le 1er janvier, les villes plus modestes deviennent un foyer majeur de la colère, en particulier dans le Zagros, chaîne de montagnes du centre-sud et de l'ouest du pays. Ce sont des zones qui ne s'étaient que peu mobilisées lors des précédents mouvements de contestation, car là encore les populations peuvent y être plus conservatrices. C'est même là que le pouvoir trouve sa base politique et qu'il recrute beaucoup de pasdaran. Or l'économie locale est menacée par l'inflation, le chômage y est désormais intense, la pauvreté est plus forte que dans le reste du pays. À Ilam, par exemple, le taux de chômage de 40% est le plus élevé du pays, comme le taux de suicide, en particulier chez les femmes. Le collectif Roja écrit depuis Paris.
Les habitants Lour, Bakhtiari et Lac de ces régions subissent de plein fouet les multiples crises imposées par la République islamique. Outre la pression des sanctions, ils vivent dans l'ombre omniprésente de la guerre, de la répression et de l'exploitation généralisée. Et subissent également l'oppression nationale et la destruction de leur environnement, notamment dans le Zagros.
La colère des marchands de Téhéran entre en résonance avec les préoccupations de ces régions agricoles et artisanales. Alors, sur les réseaux sociaux, déferle des images des manifestations quotidiennes. L'espoir d'un basculement naît. Les banlieues populaires rejoignent les cortèges et tout le pays est dans les rues. Les syndicats de chauffeurs routiers, des retraités et de commerçants, ainsi que des associations d'écrivains apportent leur soutien. Les travailleuses des marchés de fruits et légumes de Téhéran entrent en grève. À ce stade, 17 personnes ont déjà été tuées par les forces de répression du régime, essentiellement parmi les minorités lourdes dans le Lorestan et parmi les Kurdes. Chaque jour voit les violences d'État s'intensifier. À Ilam, la police attaque un hôpital. À Birjand, le dortoir universitaire des femmes. La cible ici, c'est donc le guide suprême Ali Khamenei. Mais derrière lui, c'est tout un système de privilèges allant du clergé au cadre de l'appareil sécuritaire. C'est son prédécesseur, l'ayatollah Khomeini, qui articule un système paramilitaire, sécuritaire et économique autour du clergé et des pasdaran. Les Paz d'Aran, c'est un corps militaire séparé de l'armée créé en 79 par l'ayatollah Khomeini, juste après la chute du Shah. Le but, protéger la révolution islamique contre un coup d'État. Alors que l'armée est faible, beaucoup d'officiers étant partis en exil pour éviter la purge. Il faut dire que la révolution de 79 est une véritable révolution populaire, avec occupation des usines et des initiatives partout dans le pays. La République islamique, instaurée ensuite, fait plutôt figure de contre-révolution. C'est cette contre-révolution fasciste que les Paz d'Aran sont supposés protéger. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont profondément liés au guide suprême, qui nomme personnellement leur chef. Ils assument sa protection et lui leur donne leur légitimité, notamment religieuse. Les deux institutions sont interdépendantes. En 79, le Kurdistan entre en rébellion après la contre-révolution islamique. Les Paz d'Aran interviennent et commettent d'abominables massacres, notamment lors du siège de Sanandaj. Dans la foulée, l'Irak attaque l'Iran. Les Paz d'Aran sont en première ligne. Les responsables font recruter des gamins dans les quartiers populaires de Téhéran et les envoient au front comme chair à canon. La guerre dure de 1980 à 1988. Des dizaines de milliers y périssent. En 89, les vétérans sont célébrés comme des héros. Une purge a lieu au sein des gardiens de la Révolution et leur rôle est étendu à la sécurité intérieure, à la politique et à l'économie. Ils sont séparés en provinces et sont rattachés aux mosquées et aux bazars par lesquels ils sont financés. Stéphane Dudonion, du CNRS, explique dans Mediapart.
Entre eux, ils ont une solidarité autrement plus forte que dans une armée conventionnelle. Ce ne sont pas tant des unités que des communautés. Ils sont du même coin. Ils se connaissent depuis les bancs d'école et se marient entre eux. Ils partagent la même culture chiite. Dès lors que leur chef leur dit « on y va », ils n'hésitent pas à le suivre, s'il le faut jusqu'à la mort.
Pendant 30 ans, s'ensuit la création concrète, par l'alliance et le mariage, d'une élite qui détient tout dans le pays. Quelques centaines de familles occupent les postes de pouvoir partout, détiennent les entreprises, les ressources stratégiques et les réseaux commerciaux. La maison du guide est gérée par les Paz d'Aran. C'est le véritable siège du pouvoir iranien. Au clergé et aux Paz d'Aran, il faut ajouter les Basiji, une milice d'au moins 400 000 personnes, volontaires armés qui sont rattachés aux gardiens de la Révolution en 2007. C'est l'équivalent de la police secrète, souvent en civil dans les manifs, qui compte 22 sections différentes, dont une étudiante pour infiltrer les universités. Son rôle est d'annihiler toute forme de dissidence. Karsi, avec la constitution de 1989, la fonction présidentielle et celle de guide suprême deviennent deux rôles séparés, c'est pour créer un pouvoir politique quasi fantoche. La présidence devient une sorte de co-direction de l'État iranien sous tutelle du guide suprême. Bien évidemment, ceci est caché par le régime. De nombreuses tentatives réformistes, légalistes, électoralistes ont été menées dans la sphère politique jusque dans les années 2010. Même les révoltes de 99 et de 2009 étaient réformistes en soi. Les slogans « Abat la dictature » étaient alors marginaux. Ce n'est que lors des nombreuses crises politiques traversées depuis lors que le rôle omniscient du guide suprême est révélé et qu'un certain continuum de la politisation et de la révolte peut se maintenir, depuis 2017. C'est d'ailleurs cette année-là que résonne le slogan « Réformistes, radicaux, c'est fini » pour marquer le rejet global du jeu politique. Dans le même temps, une politique néolibérale classique est appliquée depuis les années 90. Grande privatisation, réduction des prestations sociales, érosion des infrastructures publiques et flexibilisation du travail. Le ministre des Finances iranien le plus important du début XXe siècle est lui-même issu de l'école de Chicago, où sont élaborées les pires théories néolibérales qui gangrènent le monde depuis le Chili de Pinochet. Et dans ce contexte de liquidation du public au profit du privé, l'oligarchie n'a fait que gonfler ses possessions sans limite. D'abord avec le BTP, pour reconstruire le pays après la guerre contre l'Irak, puis avec les télécoms, les barrages électriques et les entreprises extractivistes. Aujourd'hui, entre 15 et 33% de l'économie nationale serait entre leurs mains. Au total, l'oligarchie pompe non seulement l'essentiel du PIB national, mais elle s'adonne aussi à une contrebande active, avec les hydrocarbures et le trafic d'héroïne. Une situation de plus en plus visible, alors que la population est en proie à la paupérisation et à la disparition des services publics. Comme le dit le collectif Roja,
la vie est devenue invivable pour la majorité de la population, en particulier pour la classe ouvrière, les femmes, les personnes queer et les minorités ethniques. L'effondrement brutal de la valeur du rial a contribué à détériorer les conditions de vie. Conjuguée aux perturbations quotidiennes des services publics essentiels et à une crise environnementale sans précédent, ainsi qu'aux exécutions massives, au moins 2063 personnes en 2025, cette nouvelle crise a aggravé la situation et propagé dans la société un sentiment généralisé de vivre en sursis.
On peut bien sûr blâmer les sanctions imposées par les pays occidentaux. Elles sont aussi responsables de la crise. Or, c'est encore la responsabilité de l'élite qui gouverne de sorte que ni la situation globale, ni les sanctions ne lui nuisent à elle, notamment en manipulant la monnaie et les taux de change à sa guise. Ainsi, même l'inflation permet à l'oligarchie de s'enrichir, via les exportations de pétrole notamment. L'équilibre budgétaire repose toujours sur des mesures d'austérité qui sont imposées à la population. Juste avant le début de la révolte, une série de mesures proposées par le gouvernement réformateur visaient à moraliser certains aspects de l'économie et à limiter les abus de l'élite. Celles-ci ont été rejetées par le Parlement à cause du vote des plus conservateurs, provoquant une nouvelle dévaluation de la monnaie et la révolte des petits commerçants. Le fait que le président ait d'abord légitimé les protestations a montré peut-être à la population toute l'impuissance du pouvoir politique face à la structure profonde du régime. Les dernières élections ont d'ailleurs attiré bien moins de monde qu'auparavant, démontrant la lassitude face à un régime soi-disant républicain qui ne fonctionne plus. En vérité, voilà 10 ans que le pacte républicain s'effondre. C'est pourquoi, en ce 29 décembre, les slogans économiques dérivent immédiatement sur des revendications politiques condamnant l'oligarchie, exigeant la mort du guide suprême et même au-delà. Ce qui est en cause, c'est désormais cette structuration au pouvoir tentaculaire, mafieuse et opaque, dont le guide est le visage mais dont les ventouses contaminent chaque parcelle de la société. La radicalité actuelle est le fruit de tentatives de réforme avortées, de ce que Chora Makaremi appelle dans Lundi Matin la disparition hors de la scène du projet réformiste comme levier politique. Elle est la réaction populaire lorsque s'effondre la croyance que le pouvoir politique puisse être autonome vis-à-vis du guide suprême. Ce mensonge des cadres du régime a duré plus de 2 décennies. C'est dire que la jeunesse qui est actuellement dans les rues n'a connu que cela. On comprend désormais que la fin du drame économique ne pourra se faire qu'avec la chute globale du système oppressif. Car si le slogan « Abat la dictature » est celui qui émerge depuis 2017, il est scandé pour la première fois par toutes les classes sociales, par toutes les générations, par toutes les géographies d'Iran. À Téhéran, la contestation va des quartiers huppés aux banlieues ouvrières. Autre fait marquant, le mouvement est immédiatement insurrectionnel et révolutionnaire, par ses slogans, mais aussi par les actions menées. Les grands boulevards sont bloqués par des barricades enflammées, les bâtiments gouvernementaux attaqués, ainsi que les sièges des gardiens de la révolution. Car en même temps que le pacte républicain s'effondre, les Pasdaran ressemblent de moins en moins à des héros de la nation. Par un nombre grandissant de personnes, ils sont désormais vus comme des corrompus, des parrains de la mafia, des chefs de gang qui enlèvent les adolescents luttant pour leur liberté. On les appelle parfois les namards, lâches, sans honneur. En 2022, ce sont eux qui assassinent Gina. Leurs agissements sont alors largement exposés et dénoncés sur les réseaux. Chora Makaremi, anthropologue iranienne, dit lors d'une table ronde organisée par Lundi Matin:
une chose qui me paraît importante, c'est que la décennie de terreur et de guerre a changé les mentalités en dévaluant la conception du sacrifice politique. Un sens commun s'est construit dans les années 90 pour dire « je ne donne pas ma vie pour la politique », aussi en opposition à l'idéologie de l'État qui était le culte du martyr. Dès qu'on est dans la rue, on risque la mort, donc il y avait l'idée que la vie ne vaut pas d'être sacrifiée pour ça. Et ce que je sens aujourd'hui, c'est que cette digue-là est en train de sauter. Une digue qui s'est mise en place au prix de tellement de sang pour discipliner la société iranienne afin qu'elle pense que la radicalité est une forme de violence. Que la violence ne vient pas de l'État, mais de ceux qui s'opposent radicalement. Et ça, ça a complètement basculé.
Et puis le 8 janvier, on assiste à un tournant, pour plusieurs raisons. D'une part, le fils du dernier chah d'Iran, Reza Pahlavi, appelle la population à sortir dans les rues. Jusque-là, on avait effectivement pu entendre des slogans pour le retour de la monarchie, sans qu'il soit vraiment possible d'en connaître la proportion. Une chose est sûre, le fils de l'ancien chah, en exil aux États-Unis, fait tout pour se poster aux avant-postes d'une éventuelle transition. Il tente de convaincre Trump de le mettre au pouvoir après une intervention militaire. Des monarchistes ont même falsifié des vidéos de manifs pour y accoler des slogans en faveur du fils du chat, dans le but de se présenter auprès de l'Occident comme la seule alternative possible. Il ne faut pas s'y tromper. Il s'agit là d'un courant d'opposition d'extrême droite, pro-israélien et pro-Trump, qui adopte parfois le slogan « Make Iran Great Again ». C'est d'ailleurs ce qui fait craindre au psychanalyste iranien Param Sarjerdi que le pays ne se retrouve coincé entre deux fascismes. En Iran, ce n'est pas parce que l'appel du fils du chat a fonctionné que tout le monde attend son retour avec impatience. Dans les universités, on condamne autant un éventuel retour du chat que l'impérialisme américain. Globalement, la situation est tellement tragique que l'on désire d'abord la chute la plus rapide d'un régime qui a dévasté toute forme d'opposition politique. Tout appel à manifester est bon à prendre. Et même si les idées foisonnent, l'imaginaire pour créer des alternatives politiques concrètes a été abîmé. L'Iran est un pays divisé dont les nombreuses minorités représentent près de 40% de la population. Celles-ci nourrissent des désirs d'émancipation, décoloniaux, voire internationalistes. Et le discours centralisateur du fils du chat soulève parmi elles plutôt la peur que le soulagement. Le texte du collectif Roja dit encore...
Le projet du retour du Pahlavi représente un horizon patriarcal fondé sur l'ethnonationalisme perse et une orientation profondément conservatrice. Là où des réseaux de mobilisation ouvrière et féministe se sont développés, notamment dans les universités et dans les régions kurdes, arabes, baloutches, turkmènes et turques, les slogans pro-monarchie sont rarement présents et souvent accueillis négativement.
Le 8 janvier est un réel tournant aussi parce que les partis kurdes appellent à la grève générale, appel massivement suivi dans toutes les régions kurdes. Dans certaines villes, les forces de sécurité sont tellement mises en difficulté que des rumeurs prétendent qu'elles ont quitté la zone. Le lendemain, un vendredi, ce sont des dignitaires religieux baloutches, minorité du sud de l'Iran, qui expriment leur soutien au mouvement. La prière hebdomadaire est alors suivie de grandes marches dans la région. Le pays entier semble s'unir pour la chute du régime. Tout le pays cesse le travail, la moindre boutique est porte close. Dans les rues, l'ampleur de la contestation est sidérante. Le pouvoir ne peut tout simplement pas contenir le nombre. À Ispahan, l'antenne de la télévision d'État est incendiée. Non loin, à Mobarakeh, la mairie et plusieurs banques partent dans les flammes, tout comme le gouvernorat de Chazand. Les représentations du guide suprême sont systématiquement détruites. Le lendemain, le quartier général des miliciens Basiji est incendié à Téhéran. Le 10 à Zanjan, les motos utilisées par les escadrons mobiles sont aussi détruites. Or, dernier élément du tournant des 8 et 9 janvier, l'escalade répressive. D'abord, le régime ordonne un blackout. Toute communication, a fortiori Internet et les réseaux sociaux, ainsi que les appels internationaux, sont suspendus. Ensuite, les passes d'Aran envahissent les rues et ouvrent le feu sur la foule. Le 8, c'est vers 21h à Téhéran que les premiers coups de feu résonnent. Le 9, c'est pire. Jusqu'à 3h du matin, les passes d'Aran poursuivent les manifestants à chaque coin de rue. Les hôpitaux sont rapidement bondés. Un médecin dénonce à France 24.
À partir de minuit le jeudi 8, le type de blessure a changé. C'était des balles de guerre qui avaient été utilisées. Tout se passait comme si les forces de sécurité avaient reçu l'ordre de tirer sur tout le monde. Les blessures que j'ai vues donnaient l'impression que les personnes tentaient de fuir, qu'on leur avait tiré dessus sans cible précise, au cœur de la foule, de biais. Ce n'est pas le type de blessure observé lors d'affrontements isolés, par exemple entre des voleurs et la police.
Par crainte des arrestations, de nombreuses personnes sont soignées chez elles ou sous un faux nom. Beaucoup meurent dans les rues, les morgues sont rapidement débordées. Sur les photos qui parviennent à sortir du pays, l'on découvre des centaines de corps alignés. Car le blackout se poursuit, l'État met même en place des brouilleurs militaires pour gêner l'utilisation des connexions satellitaires. À partir de là, tout est plus flou. Même recevoir des appels de l'étranger peut valoir une arrestation. Les téléphones neutralisés, la répression devient indicible. L'État traite les manifestants de terroristes, les accuse d'être manipulés et même infiltrés par les agents du Mossad israélien. Des mitrailleuses sont installées en pleine rue, des snipers grimpent sur les toits. On dénonce des massacres de masse et des exécutions au terme de jugements expéditifs, puis carrément sans jugement. Le 19 janvier, les autorités iraniennes elles-mêmes reconnaissent la mort de 5000 personnes, dont un millier de leur côté. Le 23, les Nations Unies parlent de 20 000 personnes tuées. Fin janvier, certaines sources parlent désormais de 30 000 morts. Un manifestant raconte « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils ont apporté des douches-ka, des mitrailleuses lourdes dans la rue. Ils tiraient en rafale. Ils n'ont épargné personne. Mon ami se tenait à côté de moi. Je l'ai vu tomber soudainement. Il a pris une balle au pied. J'ai retiré ma ceinture. Je lui ai fait un garrot et je lui ai dit « Lève-toi debout ». Mais il ne disait plus rien. Il ne répondait pas. Et puis j'ai vu qu'il avait pris une autre balle dans le thorax. À l'hôpital, ils nous ont dit que c'était déjà fini pour lui, et de l'emmener avant que la police ne vienne prendre son corps. Mais à l'hôpital, les caméras nous ont filmés. Nous n'avions pas pensé à nous masquer le visage. Et maintenant, ils sont en train de décortiquer les images de vidéosurveillance. Depuis vendredi, je tremble dès que je mets le pied dehors. J'ai peur qu'ils m'aient identifié grâce au logiciel de reconnaissance faciale. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai peur et je ne sais plus quoi faire. با کسی کم نمیگیره جلو تجاوز صدامو انقدر دیوونم که میتونم همه چیزو بگم و یه قمی خوابیده پشت سر این دکور نگامو آتیش جم نمیشه دیگه حتی اگه بخوام یه جوه نمیمیزنم به میگم داشی برو و اصاب ضعیفه تو خونه باز خاموش کنم چراغ و محپراید میریزیم پایین شما توی پرادو مثل ما یه گیتار میزنم در کونه دگاتو شوقمونو گرفتن و ذوقمونو کور کردن. Aujourd'hui en Iran, quelque chose a définitivement changé. L'effondrement du pacte républicain est consommé et la transformation de la réalité politique semble inévitable. Comme le dit encore le collectif Roja, la société iranienne a reconstruit ces 8 dernières années un mouvement politique insurrectionnel par le bas. Les comités de grève et les réseaux locaux, bien que réprimés de manière criminelle, représentent une réelle force politique qui survit clandestinement et ressurgit presque chaque année. Et chaque fois, elle semble ressurgir plus vaste, plus unie entre classes, entre générations et entre communautés. Dans Orient 21, Armin Messager écrit:
le retour apparent à un statu quo autoritaire ne doit pas masquer la profondeur des transformations à l'œuvre. L'effondrement du contrat social dans des régions longtemps considérées comme des bastions de loyauté, la politisation accélérée de catégories traditionnellement conservatrices et l'extension durable de la contestation à l'ensemble du territoire constituent autant de lignes de fracture qui fragilisent les fondements mêmes du régime. L'évolution des semaines à venir, notamment autour des rituels de deuil et de la cérémonie du 40e jour, qui ont historiquement servi de catalyseur à de nouvelles mobilisations, permettra de déterminer si cette séquence s'inscrit dans une temporalité plus longue ou si elle ouvre la voie à une recomposition plus profonde du champ politique iranien.
On relève aussi des fractures au sein du pouvoir iranien. Selon le Grand Continent, la loyauté des différents corps de sécurité au service du régime serait en train de s'éroder, tandis que les actions de résistance se poursuivent clandestinement dans le pays. Le vendredi 23 janvier, jour de prière hebdomadaire, de nouvelles marches sont reportées par le Conseil national de la résistance iranienne. Alors que la plupart des mosquées sont cernées par les Basidjis, le Conseil est parvenu à faire sortir des images montrant des cortèges à Zahedan, Rask et Kash. La foule chante « Cette année est une année de sang, Seyed Ali sera renversé. À bas les Pasdaran sans honneur » ou encore « Basidji sans dignité ». La veille, de jeunes insurgés avaient attaqué un commissariat à Arak. À Shiraz, une émeute répondait à l'attaque de miliciens. Encore plus tôt, le 20, on relevait une attaque contre un QG des Basidjis au cocktail Molotov. Chaque jour, dans telle ou telle localité, les attaques contre le régime se poursuivent. Bégou. Comment alors soutenir cette résistance iranienne? D'abord, ne cédons pas aux tentations de voir la géopolitique en termes de camps. D'une part, ce n'est pas parce qu'il semble s'opposer aux États-Unis et à Israël que le régime iranien peut constituer un quelconque frein à l'impérialisme. Les bouchers de Téhéran appliquent une politique néolibérale. D'autre part, il est bon de se demander si une intervention états-unienne profiterait vraiment aux Iraniens et aux Iraniennes, sachant que Trump ne voit là que des réserves de pétrole qu'il pourrait soustraire à la Chine. Ce ne sont là que deux empires qui s'affrontent sur le dos d'un peuple. Un peuple qui porte aussi des revendications féministes, écologistes, multiculturelles, et qui en appelle à l'internationalisme. Ne cessons jamais de construire cette résistance populaire sans frontières, en Iran et au Rojava. Comme ailleurs. رژیم یه اتوبوس تو جاده مرد میچرخونتش یکی با یه دست بخونید فاتحش برای دختر آزادی خاک. C'était l'actu des oubliés. Merci de nous avoir suivis. Au doublage, Vivi Isaé. Pour plus d'informations sur les sources de cet épisode et les manières de se solidariser avec le Rojava ou avec l'Iran, rendez-vous sur notre audioblog L'actu des oubliés. En termes de musique, vous avez pu écouter Indafé de 21G, 1404 de Sogout et MA de Korouche et Samilo. Belle lutte, bon mois de février et à bientôt pour le nouvel épisode de l'Actu des Oubliés. برای اشتباه 57 زنده باد انقلاب نسل 82 زن بگو
وای از آن روز که من و تو ما شویم قطره قطره جمع چو دریا شویم این شب تخت گرچه دیر میگذرد وای از آن روز که صبح فردا شویم اون مرد ایرانی